série Déconstruction du discours de Nicolas Sarkozy, je vous propose de nous pencher sur sa vision de l'Afrique. Surtout que le candidat Sarkozy avait annoncé pendant sa campagne électorale une rupture au niveau de la politique française en Afrique. En juillet 2007, tout juste élu président de la République, il énonce à l'université de Dakar un discours qui scandalise les intellectuels africains, mais pas que. Et ils sont une vingtaine à avoir réagi à ce discours dans un livre intitulé « L'Afrique répond à Sarkozy » publié aux éditions Philippe Ray. Dans cette émission, vous allez pouvoir entendre l'écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana, ainsi qu'Odile Tobner, présidente de l'association Survie, et Laurence Decoq, qui a co-dirigé le livre « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France » sorti chez Agone. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous épargner le discours de Sarkozy en tant que tel. Si toutefois certains y tiennent vraiment, vous pouvez l'écouter sur le site de l'Élysée. Mais il semble plus pertinent d'entendre la description qu'en fait Odile Tobner.
Oh, c'est un discours ridicule surtout et grotesque. C'est un discours qui va faire beaucoup de mal à la France. C'est un discours qui fera date dans l'histoire. Parce qu'il montrera qu'en 2008, en 2007 exactement, puisqu'il a été prononcé en juillet 2007, on peut encore proférer des énormités qui ont déjà marqué de façon assez caricaturale l'ethnologie du 19e siècle et toute la tradition raciste du discours esclavagiste et raciste depuis des siècles en France. Par conséquent, ça montre à l'évidence que tous ces lieux communs n'ont pas été, et toute cette attitude arrogante et paternaliste n'a jamais été critiquée. La France n'a jamais remis en question sa posture coloniale.
Alors en même temps, c'est pas si clair que ça, c'est délicat d'analyser ce discours parce que Nicolas Sarkozy, alors certes il y a des moments, ce que vous disiez, grotesques, etc., où on retombe dans les clichés de l'époque coloniale, et en même temps il reconnaît les méfaits de la colonisation.
Il les reconnaît sans les reconnaître, hein. Il dit, parce qu'il ne peut pas faire autrement, que ce n'était pas une si bonne chose que ça. Mais immédiatement après, il dit qu'il y avait des gens qui étaient très gentils, il y avait des méchants et des gentils, c'est-à-dire qu'il ne condamne pas en bloc la colonisation, mais il y aurait eu, selon les gens, des bonnes ou des mauvaises choses. Donc c'est extrêmement réduit, hein, ce n'est pas du tout une condamnation de ce qu'a été cette entreprise collective. Il récuse d'ailleurs le fait que ça ait été une entreprise collective, alors que c'était quand même une entreprise collective et nationale, de conquête et d'oppression. Et c'est extrêmement réduit, comme du bout des lèvres, il accorde que c'était pas tout à fait bien. Bon, c'est tout. Donc ça va pas très loin, ça va pas très loin. Et à côté de ça, il y a la récusation de la responsabilité. Les fils ne sont pas responsables de ce qu'ont fait les pères, alors que les Africains, eux, sont collectivement responsables de leur pauvreté, hein, il dit bien. Par ailleurs, il y a des passages tout à fait arrogants. Tous ces impératifs, ne faites pas, faites, ne faites pas, qu'est-ce qu'il vient? Et ensuite, il y a toujours ce double discours, ce double langage, hein, cette duplicité du langage, puisqu'il y a cet égrenage, ce pilonnage d'impératifs, hein, d'impératifs d'ordre et de défense adressés à la jeunesse africaine. L'impératif est un mode quand même de l'ordre. Et après, il dit « je ne suis pas venu vous donner des conseils ». Donc il nie ce qu'il est en train de faire. Alors c'est de la mauvaise foi.
Mais alors est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est il y a une part d'ignorance? Est-ce que c'est de la provocation?
C'est la bonne conscience absolument en béton des Français en Afrique. Ils se rendent même pas compte. Je pense que on le lui a écrit, mais il l'a prononcé, donc il n'était pas capable de juger apparemment de ce qu'on lui faisait dire. Mais c'est vraiment cette bonne conscience bétonnée qui fait que les Français ne doutent pas une minute d'eux en Afrique. Et ils sont à la limite du grotesque maintenant. Hein. C'est assez effrayant comme position. Ils sont sûrs d'eux. ils sont sûrs d'eux, et ils ont tellement intégré profondément le mépris de l'Afrique qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Eh bien, c'est un discours plus naïf, d'une certaine façon, en ce sens que c'est une sorte de paternalisme décomplexé, où il va dire aux Africains leur cas de vérité pour leur bien, pour leur bien.
Et Nicolas Sarkozy avait annoncé au moment de son élection une rupture au niveau des relations entre la France et l'Afrique. Alors, quelle rupture on peut noter dans le discours, d'abord ?
Eh bien, il y a cette rupture, déjà, puisque il y a cette brutalité du discours, c'est déjà une rupture. Et ce sera peut-être bienfaisant pour les Africains, parce qu'ils ont toujours été embobinés par les discours français. Là, ils vont pouvoir eux-mêmes, justement, se mettre en position de rupture. Et voilà, ça sera probablement une conséquence, peut-être involontaire. La rupture ne sera pas là où on pensait qu'elle serait.
Laurence de Kock, comment vous analysez le discours de Nicolas Sarkozy tenu à Dakar 2 mois à peu près après son élection, donc discours sur l'Afrique? Il avait promis une rupture dans la politique de la France menée en Afrique. Comment vous voyez ça?
Il y a effectivement une rupture de taille. C'est un retour à un discours, alors là pour le coup très décomplexé, qu'on n'avait plus entendu depuis très longtemps, c'est-à-dire un discours de colonisateur. Est-ce que c'est de la naïveté, est-ce que c'est de la maladresse, s'adresser à un auditoire d'étudiants sélectionnés sur le volet, et surtout d'enseignants de l'université de Dakar sélectionnés sur le volet aussi, et oser leur dire que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire et qu'en substance, il a fallu attendre cette espèce de fécondation coloniale pour que l'Afrique entre dans, acquiert une historicité. Alors là, très franchement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis, je pense, allez, on va dire les années 20, années 20, années 30. Donc là, oui, il y a une rupture. Alors, est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est volontaire? Difficile à dire, parce qu'évidemment, le reste du discours vient au contraire fabriquer ce consensus et brouiller les cartes, parce qu'il s'inscrit complètement dans cette mécanique très sarkozienne de volonté de non-repentance, mais tout en reconnaissant les traumatismes historiques. C'est-à-dire qu'il serait faux, il serait très hâtif de considérer que Nicolas Sarkozy ne reconnaît pas les méfaits de la colonisation, le traumatisme de l'esclavage ou ce genre de choses. C'est faux, tous ces discours appuient à un moment donné là-dessus, en disant effectivement il y a eu crime, il y a eu violence, il y a eu méfaits, etc. Simplement, par tout cet effet justement de à la fois de litanie et de discours cyclique, il les énonce, donc en disant « je reconnais qu'il y a eu ça, j'assume qu'il y a eu ça », parce que c'est un réceptacle extrêmement puissant, c'est un aimant, il assume tout, Nicolas Sarkozy, « j'assume qu'il y a eu ça, mais nous ne sommes pas responsables des méfaits de nos ancêtres, donc il faut regarder devant et construire du nouveau en balayant tout ce qui a pu être de l'ordre du traumatisme. Et dans le discours de Dakar, dont on ne retient que sa partie caricaturale, qu'il faut pointer parce qu'elle l'est, je veux dire, c'est d'un mépris absolument incroyable vis-à-vis du continent africain, mépris, méconnaissance, indifférence, à mon avis d'ailleurs complètement, mais il y a dans ce discours de Dakar les deux facettes, et c'est ça qui est difficile chez Nicolas Sarkozy à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas le taxer d'ultra-conservatisme comme ça de façon hâtive, en disant « mais il a dit ça, donc ça prouve que finalement il s'inscrit dans ceux qui veulent montrer une vision positive de la colonisation, etc. » Non, c'est pas si simple. N'oublions jamais que c'est l'homme du consensus. Donc à la fois, il va adresser des signaux, parce qu'il procède par signaux, donc à la fois, il va adresser des signaux à ses porte-paroles, à ses groupes mémoriels qui militent aujourd'hui pour une reconnaissance des aspects positifs de la colonisation. Donc à la fois, il va leur adresser des signaux, ça c'est clair, mais il sait aussi très bien qu'il ne peut pas en rester là et qu'il faut aussi qu'il montre au reste de la population que, il y a eu des choses, des impacts négatifs, des effets négatifs, etc. Donc, il faut vraiment inscrire ça dans une stratégie de fabrication de consensus. Hein, il ne faut pas l'essentialiser dans une vision révisionniste de l'histoire ou qui s'inscrirait uniquement dans ces groupes réactionnaires.
Mais est-ce que là, Nicolas Sarkozy ne rêve pas d'une nouvelle mission civilisatrice ?
Alors j'allais y venir, effectivement, hein, qui s'incarne dans sa fameuse formule de politique de civilisation. Il y a malgré tout en filigrane, à la fois dans ce discours de Dakar et dans d'autres discours dans lesquels il a évoqué la colonisation, il y a bien sûr en filigrane l'idée que la France et l'Europe, parce qu'il élargit à l'échelle européenne quand même, la France reste porteuse de valeurs progressistes, de valeurs civilisationnelles, il ne dit pas civilisatrice parce que là en revanche ce serait vraiment très connoté, mais donc reste porteuse d'un projet de civilisation qui reste un modèle pour l'ensemble des pays encore dits en développement. Hein, et comme ils sont en développement, ils sont en cours de développement, donc ils ont un miroir là dans lequel ils peuvent continuer à puiser des ressources pour rejoindre ce grand mouvement, hein, ce grand rêve de civilisation aussi, dit-il, pour rejoindre ce grand mouvement de civilisation porteuse de progrès. Donc évidemment, il s'inscrit dans cette vision de l'histoire qui est un prolongement plus actualisé de la fameuse mission civilisatrice de l'époque coloniale.
Donc l'un des intellectuels africains qui a réagi au discours de Dakar, l'écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana nous explique pourquoi il a décidé de répondre à Nicolas Sarkozy.
C'est l'évidence même, lorsque on dit de vous des contre-vérités, vous levez parce que vous êtes vous-même, vous avez votre dignité. Et laisser dire quelque chose d'aussi inepte, c'est aussi... une faute de ne pas y répondre à mon sens. Donc moi, dès le discours de Dakar, j'avais écrit un article déjà qui était paru à Libération. Et à partir de là, il y a eu déjà beaucoup de réactions par rapport à ce papier. Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, tout simplement. Donc publié dans le journal Libération. Et c'est un texte qui a beaucoup circulé. Sur le net, en Afrique, dans les milieux intellectuels africains, français aussi.
Alors, est-ce que, parce que c'est des critiques qui sont faites aux gens actuellement qui, justement, cherchent à déconstruire le discours de Nicolas Sarkozy, c'est aussi des critiques faites aux journalistes qui font des émissions sur le discours de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que répondre à Nicolas Sarkozy, c'est faire son jeu, lui donner la vedette ?
Il fait déjà la vedette à lui tout seul. Hein. Alors, il n'a pas besoin d'Africains pour qu'il joue son petit jeu avec ses tam-tam bien personnels. Mais disons que Nicolas Sarkozy est le président de la République française. Et la République française a une influence réelle en Afrique. Et quand c'est le chef de l'État français qui parle ainsi, ce n'est pas une parole en l'air. Ça se traduit sur des actes bien bien précis qui agissent directement sur le quotidien de l'Afrique. Donc à partir de là, nous, on se lève et on dit non, on n'est pas d'accord. Mais faire son jeu, ce n'est pas ça du tout. Est-ce qu'il faut tout simplement le laisser faire son jeu, son clown, et puis ne pas y répondre, et puis la situation dégénère de plus en plus, non? À partir du moment où il y a, j'allais dire, où il y a un enfant qui fait une bêtise, on lui donne une claque et c'est fini. Mais Nicolas Sarkozy, bien sûr, n'est pas un enfant.
Alors justement, on ne peut pas lui donner de claque. Comment vous avez choisi de lui répondre ? Sur quel plan ?
J'ai essayé de voir justement comment ne pas rentrer dans ce jeu, tout en mettant les choses au clair, tout en mettant les points sur les i. Et j'ai plutôt réfléchi à une certaine France qui ne veut pas entendre sa propre histoire. Pas forcément le chef de l'État français, mais une partie de cette culture française tu oublies que l'Afrique est importante sur le sol même de France et sur l'imaginaire français aussi. Donc j'ai écrit un texte qui s'appelle « Le silence français ». Et dans ce texte, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas la France qui n'a pas fait son travail de mémoire? Parce que l'Afrique, quelque part, malgré tous les problèmes qu'il y a en Afrique, malgré toutes les contraintes et les obstacles sur la mémoire, les dictateurs qui ne veulent pas parler de l'histoire, de la mémoire, il y a eu quand même un travail fait. Et il est surtout aussi le simple fait de vivre avec cette mémoire qui est toujours là, notamment par exemple à travers la langue française qu'on utilise, et cette langue française qu'on utilise sur le sol africain, et c'est déjà de la mémoire vive, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas notre langue maternelle, on sait très bien que c'est une langue des Français, mais on fait en sorte que l'histoire avance, justement, l'histoire n'est pas immobile, notre histoire n'est pas immobile, on prend cette langue qu'on nous a imposée et on en fait autre chose. Mais dans cette langue, il y a aussi notre mémoire, on sait que c'est, on nous a obligés, par exemple, pendant la colonisation, à connaître nos grammaires, à connaître la conjugaison, et dès qu'on ne sait pas un petit point de conjugaison, l'inconscient dit qu'on est des sauvages. Donc le travail se fait déjà, rien qu'en apprenant la langue française. Je me posais vraiment cette question-là, en me disant, et si la France ne veut pas regarder sa propre histoire, donc ne pas regarder aussi l'Afrique.
Et alors comment donc c'est ça, là, vous prenez le contre-pied de Sarkozy en fait en disant que la France n'arrive pas à mener à bien son travail de mémoire et elle est enfermée dans son silence.
C'est un silence relatif, hein. C'est-à-dire que dans les universités françaises il y a plein d'études sur l'histoire africaine et même les historiens africains viennent en France pour apprendre l'histoire africaine. Ce sont des choses qui existent. Il y a aussi des historiens qui ont fait un travail extraordinaire déjà, je le cite dans mon article. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré cette abondance de documents, on n'arrive pas à basculer dans la vulgarisation de cette histoire africaine en France. Pourquoi tout ce matériau des historiens ne passe pas dans l'éducation, ne passe pas dans les programmes scolaires? Pourquoi il faut toujours attendre d'être à un niveau très élevé en doctorat pour parler de l'histoire africaine? Et pourquoi aussi il y a ces tentatives répétées de vraiment, par la loi, imposer une certaine histoire de l'Afrique. Je pense à la loi de la colonisation positive, etc. Et pourquoi faut-il qu'il y ait eu une loi aussi sur l'esclavage pour reconnaître qu'il y a eu réellement crime? Pourquoi fallait-il attendre la loi Taubira pour reconnaître que la France a participé à l'esclavage? Donc, c'est ça qui m'étonne le plus. Et j'étais aussi enseignant en région parisienne. Donc je vois par rapport à mes élèves, je vois aussi par rapport aux parents des élèves qui connaissent les choses d'une manière mais vraiment très très primaire. Et je vois aussi, quand je me promène dans Paris, je suis toujours étonné que les Parisiens ou les Français qui habitent Paris ne se rendent pas compte de toute la culture coloniale sur les monuments, sur les sculptures dans les rues, sur les noms des cafés. Quand on va, on se donne par exemple rendez-vous au café Braza, c'est l'histoire coloniale qui est là. Mais dès qu'on pose la question, vous savez qui était Braza? Ils ne savent pas. Ou alors on va dans la rue Gallieni, ils ne savent pas que Gallieni avait instaurer une politique des races à Madagascar. Et c'est cette même politique qui a été instaurée par l'IOT au Maroc. puisque Liberté a fait ses écoles avec Galeni à Madagascar. Et ils étaient ensemble aussi en Indochine. Donc il y a plein de choses comme cela qui fait que je suis arrivé à cette conclusion-là. Il y a eu une sorte de bandeau sur le passé, malgré les évidences qu'il y a dans la vie quotidienne française.
Africa, why c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, why c'est du blague et tu es. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons. Et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé la. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature. Tout ça pour nous affamer. Il pille nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tu es.
Jean-Luc Raharimanana, écrivain malgache.
Le constat est que l'Afrique a changé avec la France, avec la présence coloniale, on va dire, pas simplement avec la France, hein, la présence coloniale ou la présence européenne. L'Afrique a changé. Mais il y a aussi l'histoire. Il y a aussi l'histoire, c'est que la situation de l'Afrique empire depuis la colonisation. Ce que les intellectuels constatent tout simplement, c'est que, oui, la situation empire et c'est une logique de cette histoire coloniale. déjà la colonisation portait les germes de cette déchéance de l'Afrique. Cette liberté africaine n'a jamais été effective. Donc lorsqu'il y a ces indépendances, la première chose que la France a réclamée, c'était la coopération. Mais on a déjà, vous voyez, on a déjà les mots qui sont très beaux. Coopération, c'est très beau. C'est comme si on dit maintenant libre-échange. C'est très beau aussi comme terme, libre-échange. Mais oui, libre et échange. En échange, échange, je vous donne, vous me donnez. Et c'est libre, donc c'est très beau comme mot. Mais derrière tout cela, il y a autre chose. Au moment où il y a coopération, ce que De Gaulle a réclamé, c'est d'abord c'était toujours contrôler l'économie africaine. On a dû entrer dans la zone franc. Et on a dû subir les lois du franc français. Et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, ce n'est pas une coopération. Il y a un beau discours derrière, et puis les réalités sont autres. On ne peut pas segmenter comme cela l'histoire africaine. Dire que la colonisation, et après colonisation, on dirait que tout va rentrer dans l'ordre, puisque finalement on est indépendant. Vous voyez, c'est beau aussi ce mot indépendant. Très très beau, tout est beau dans les termes qu'on nous donne. L'histoire n'est pas comme dans les pages d'un livre, on ne tourne pas. On ne tourne pas la page. La page continue. Ce qu'il faut peut-être, c'est un parchemin, c'est un rouleau, et pour pouvoir lire sur une seule page l'histoire. Et c'est vraiment ça la différence entre le point de vue des intellectuels africains et le point de vue des intellectuels français, d'un certain groupe d'intellectuels, je veux dire. C'est que en dehors de l'Afrique, on lit l'histoire selon les manuels scolaires. Il y a les dates. Après les dates, on dirait que le passé, ça veut dire n'existe plus. Alors que en Afrique, on a toujours vécu avec cette question d'une histoire qui n'est pas segmentée, d'une histoire qui est héritée. C'est-à-dire que j'ai, moi, vivant maintenant, j'ai hérité de l'histoire de mon père. Mon père a hérité l'histoire de son grand-père, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de coupure. Et à partir de là, on a peut-être cet avantage, malgré la pauvreté et la misère qu'on a, d'avoir une conscience aiguë de l'histoire, puisque cette histoire agit directement dans notre quotidien. L'histoire, malgré tout, ne pèse plus autant chez les Africains, l'histoire coloniale. C'est-à-dire que la génération de maintenant ne veut plus penser tout le temps à la colonisation, on veut passer à autre chose. On veut passer à d'autres partenariats, à d'autres relations. Et si on a toujours en face de nous des gens qui se comportent soit au mieux comme des paternalistes, soit toujours comme des colonialistes, ça se passe plus comme ça. Et c'est facile maintenant d'aller en Chine, c'est facile d'aller aux États-Unis. Pour avoir un visa en Chine, c'est beaucoup plus facile que d'avoir un visa en France. Et à partir de là, forcément, les choses bougent.
Sarkozy avait dit que sa politique africaine serait une rupture par rapport à ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Est-ce que vous avez noté une rupture dans son discours ?
Le discours lui-même peut être considéré comme rupture quand même. Il y a une chose, il a reconnu les méfaits du colonialisme malgré tout dans ce discours-là. Enfin, superficiellement comme cela, mais au fond, est-ce qu'il le reconnaît, puisqu'il, dans le même discours, il redit que le colonialisme était bien. Parce qu'il y a eu, pareil, il y a eu des gens qui n'ont pas toujours pensé comme cela. Il y a eu des gens qui voulaient faire des choses. Il y a eu des missionnaires qui étaient bien, etc., etc. Mais je pense que c'est plus lié au personnage lui-même qui aime se donner de l'importance et qui veut qu'on le considère comme l'homme politique français qui aurait rompu avec cette idée de comme quoi l'État français ne reconnaît pas les crimes en Afrique. Peut-être qu'il voulait avoir ce rôle-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ou dans la tête de son conseiller, mais en tout cas c'est comme si il veut être tout à la fois. Donc celui qui aurait dit que le colonialisme est mauvais, et celui qui dit aussi que le colonialisme était bien, puisqu'il y avait des gens bien. Je pense surtout qu'il y a une confusion qu'il fait entre les histoires individuelles et les histoires collectives. Un colon, c'est un homme. Et un homme, une femme. Hein. Un colon n'est pas forcément toujours quelqu'un de monstrueux. Les Africains n'ont jamais dit ça non plus. Mais le colonialisme, c'est un système. Et c'est ce système-là que les historiens africains et que les Africains ont compris depuis longtemps comme un système qui broie, un système étatique. Et c'est ça qu'il faut condamner. Ce ne sont pas les individus. Il y a eu des crimes contre l'humanité pendant le colonialisme. Donc il faut quand même reconnaître aussi à l'Afrique ce travail-là, de se dire que les Africains ont fait ce travail de pardon déjà quelque part. On aurait pu continuer, on aurait pu être beaucoup plus virulent pour l'ouverture des archives. Le fait qu'il y a des dictateurs n'explique pas tout. Et c'est là que beaucoup de Français se trompent. Il y a des Français qui vont en Afrique qui sont accueillis très très bien. Ils disent, si on est aussi bien accueillis, c'est parce que finalement ce qu'on a fait pendant la colonisation était bien. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que les Africains ont fait la part des choses entre une destinée humaine et une destinée entre les États. Et à partir de là, dire tout et son contraire dans le même discours, c'est complètement un manque de réflexion évidente. Son erreur, c'est de vouloir parler à la fois aux Africains et aux Français. Et il a parlé aux Africains en disant l'État français colonial a fait ceci, cela, et ce n'était pas bien. Mais il voulait aussi rassurer ses électeurs qui n'accepteront jamais cela. C'est-à-dire de cette histoire de repentance qu'une certaine partie de l'électorat français ne veut absolument pas envisager. Et donc, il veut rassurer aussi son électorat en disant, vous voyez, je vous défends quand même auprès des Africains. Mais fondamentalement, et on l'a vu après, la rupture, où est-ce qu'elle est ? Quand il va chez Omar Bongo, quand il renvoie Bokel, ministre de la coopération, j'allais dire ministre de la France-Afrique, qui voulait en finir justement avec cette histoire de la France-Afrique, comme Sarkozy l'avait promis pendant la campagne électorale. Et ce ministre, il était censé appliquer ce programme, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de complicité avec des dictateurs. Mais Omar Bongo a dit non. Et Sarkozy a accepté.
Et Omar Bongo, donc président du Gabon.
Président du Gabon. Et pareil pour Ben Ali en Tunis. Là, par contre, il n'y a pas de rupture.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Oh, prédateur tentaculaire,
oh, boulimie monopoliste,
oh, technocrate mercenaire,
quand la finance a ses artistes,
au terrain de jeu au soleil,
aux chaises longues pour politique,
Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf,
se servent sur la pompe afrique,
Bolo Poli, Bolo Réseau,
Bolloré voyage au Congo,
Bolloré crée son arsenal,
rejoint la cour du général,
Bolocratie, Bolo la pieuvre,
regarde les devises qui pleuvent,
quand Bolo se roule à tarpé,
il ouvre une usine OCB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
En colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes, archi corrupteurs. Il y a des armées, des œuvrés qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République.
France, Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs.
Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Si on écoulait notre vache folle sur le marché du Nigeria, à 2 francs le kilo, c'est du bol, je pourrais partir au Bahamas. Mon banquier me trouve un peu mal, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils.
Paradis, refuge planétaire,
pour portefeuille de mercenaires,
pour autres pilleurs de l'Afrique,
ou pour fumier démocratique.
Elles ont belle gueule nos colonies.
Bizarre, elf s'est fait griller.
Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée.
J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine.
Qu'on a vu, c'est que il y a eu une perpétuation des pratiques avec la complicité, avec ce qu'il y a de plus arriéré, de plus archaïque et de plus corrompu en Afrique, à savoir les présidents qui sont présidents depuis 30, 40, 50 ans. Ben, il y a eu le soutien à Déby contre la rébellion tchadienne, contre le président du Tchad.
Odile Tobner, présidente de Survie.
Ces rebelles sont des Tchadiens qui veulent se débarrasser du gouvernement tchadien, qui est un gouvernement dictatorial et cruel, tortionnaire et pillard. Et peu importe qui sont ces rebelles, de toute façon, la France n'a pas à maintenir de force le président tchadien au pouvoir. C'est aux Tchadiens de régler leurs problèmes avec le pouvoir qu'ils ont. Et s'ils jugent bon de renverser ce pouvoir, c'est leur problème, ce n'est pas le problème de la France. Alors on dit que les rebelles étaient soutenus par d'autres puissances peut-être, mais la France a fait bien mieux, elle était sur l'aéroport de N'Djamena, et là, les soldats français ont tiré pour empêcher les rebelles de s'emparer de l'aéroport de N'Djamena. Alors ça, c'est quand même aucune autre puissance n'était sur le terrain à ce niveau-là. Donc ça, c'est un abus manifeste. Ça, c'est un fait d'impérialisme, un fait qui empêche un peuple de décider de son propre sort, alors que la charte de l'ONU dit bien que les peuples sont libres de choisir leur régime et leur gouvernement. C'est la liberté d'un peuple de se déterminer lui-même. Donc la France s'est trouvée engagée contre un peuple qui voulait se débarrasser d'une dictature.
Il y a eu vous avez d'autres exemples, d'autres actes de la politique de Nicolas Sarkozy ?
Il y a le fait que des faveurs faites à Bongo.
Omar Bongo, le président du Gabon.
Président du Gabon, oui. Il y a ça. Et puis enfin, en février dernier, vous avez eu au Cameroun des émeutes urbaines. Il y a un mouvement de révolte urbaine impressionnant qui avait des motifs politiques. On ne nous parle pas des meutes de la faim, c'est englobé de façon très réductrice. En réalité, c'était des émeutes contre un régime qui affame depuis des dizaines d'années le pays par la mauvaise gestion, par le pillage. Et ces émeutes dans un pays protégé par la France, où il y a eu plus d'une centaine de morts, n'ont provoqué aucune condamnation officielle de politiciens français qui sont si pressés de condamner le régime birman ou le régime chinois. Nos hommes politiques, d'ailleurs de droite comme de gauche, n'ont proféré aucune condamnation publique. La presse, même chose, n'a pas fait un sort à ces événements qui étaient des événements tragiques dans un pays qui est étroitement lié à la France. Et ça, c'est assez scandaleux. Politiquement et médiatiquement, il y a eu cette chape de plomb qui s'est abattue sur les événements camerounais.
Alors, pour vous, Odile Thobner, ça veut dire que le discours de Dakar était un discours de rupture dans sa tonalité brutale, mais que dans la politique, en tout cas jusque-là, depuis un an, la politique menée par Nicolas Sarkozy en Afrique, il se place dans la continuité par rapport à ses prédécesseurs ?
Absolument, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. La puissance française ne veut pas du tout changer sa façon d'être en Afrique, elle veut préserver. Et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? Parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas changer, puisqu'elle est liée aux intérêts, à des intérêts tellement puissants. On ne voit pas ses intérêts reculer, lâcher un peu de leur butin. On les voit mal le faire volontairement. Depuis le début de la colonisation, depuis la fin du XIXe siècle, la colonisation est faite par les moyens de l'État, mais l'exploitation du pays est faite par des grandes compagnies. Hein. Ce sont des grandes compagnies concessionnaires qui ont toujours exploité. Il y a Suez, il y a la Banque d'Indochine, comme bien nommée, mais qui avait des intérêts en Afrique aussi. Il y a les grandes compagnies encore innombrables qui ont fait leur beurre en Afrique depuis la colonisation et qui le font toujours. Exploitation du bois, exploitation du pétrole, Total. Vous avez l'exploitation du bois aussi, les plantations. Vous avez toujours ces intérêts qui sont des intérêts privés. Et ça augmente encore, puisque avec les injonctions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, avec les plans d'ajustement structurel pour que ces pays qui ont été endettés malgré eux et pour des projets qui n'ont aucun intérêt pour ces pays-là, eh bien, sont obligés de vendre leurs compagnies publiques. Et ce sont des intérêts privés occidentaux et souvent français. Hein, c'est Bouygues qui a toute la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est Bolloré qui possède les ports le port de Douala, qui le port d'Abidjan, c'est Bolloré encore qui possède tous les chemins de fer camerounais. Donc il y a d'immenses intérêts français en Afrique qui datent de la colonisation et qui sont toujours présents. Et ces intérêts-là font le gros de leurs bénéfices en Afrique et sur l'Afrique. Et or, Sarkozy va se reposer le lendemain de son élection sur le yacht de Bolloré. C'est une véritable provocation.
Matala no yeti nyakumaye Eko ibe furune ma Matala no yeti nyakumaye Kananke jugu sagoye Nejara bila edela Neburuna edela Dis-moi la vérité.
Quand on demande à l'écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana quel a été l'écho du discours de Dakar en Afrique, il donne une réponse qui déplairait fortement à Nicolas Sarkozy. Et si les Africains optaient pour l'indifférence ?
Il n'y a pas eu réellement tout de suite une grosse réaction, parce que déjà le discours n'a pas été diffusé dans tous les pays d'Afrique, et que c'était un non-événement quelque part. Non événement dans la mesure où plus beaucoup de gens ne s'intéressent à un discours d'un chef d'État français. Parce qu'on se dit toujours, tiens, ils vont nous refaire encore le coup de la coopération, ils vont nous refaire encore le coup des ajustements structurels, tous ces beaux discours pour nous sauver, pour nous sortir de ce sous-développement, et bon, pour nous émerger maintenant. Et plus personne n'écoute ces discours. Et ce sont réellement des discours entre diplomates, entre chefs d'État, entre copains, si on va dire les choses comme ça. Entre copains, soit entre Bongo et Chirac, entre Bongo et Sarkozy maintenant. Bon.
Qui décryptait le discours de Nicolas Sarkozy prononcé en juillet 2007 à Dakar, vous avez pu entendre Laurence Decocq, historienne membre du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, Odile Tobner, présidente de Survie, et l'écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana. Pour aller plus loin dans la réflexion, je vous renvoie aux deux ouvrages collectifs « L'Afrique répond à Sarkozy », publié aux éditions Philippe Ray, et « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France », sorti chez Agone.
On nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant ». Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je regarde dans ma tête.
Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets.
Qu'est-ce qui se passe ?
Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats.
Qu'est-ce que tu fais ?
Eh ben, je m'amuse.
Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul.
J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, je l'ai pris dans la gueule.
Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin.
Allez, un pas de côté pour rêver ensemble l'an 08. appelez le répondeur de Radio Grenouille pour y confier témoignages, souvenirs, fictions, analyses, colères, doutes sur mai 68 et les débats suscités par sa commémoration. Vos paroles surgiront à la radio et seront diffusées lors du forum du 29 mai au théâtre Tourski.
Et si on arrêtait tout ?
Je vous laisse faire un pas de côté pour noter le numéro du répondeur.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
C'est bon ?
Il y a comme ça pour y arriver.
Voilà, 04 95 04 95 82.
Allez, au boulot.